bienvenue à bord de ma mobylette cosmique sur les routes de la musique. Cette semaine, nous sommes toujours en Égypte. Après tout, personne mieux que les Égyptiens n'avait un tel sens de l'éternité. S'il fallait justifier la longueur de notre halte dans ce pays magique, c'est qu'il est loin d'avoir révélé tous ses mystères et qu'il faudrait pratiquement autant de temps qu'a duré sa civilisation pour en lever tous les voiles. Un peu de Champollion, un peu de Freud, un zeste de Platon, un philologue allemand, des Grecs et des Assyriens, une légende chinoise, et nous voilà embarqués, tels des Indiana Jones en culotte courte, pour tâcher de résoudre des énigmes avec les sources dont nous disposons, des mythes, des récits bibliques, un aller-retour en somme entre des bouts de poterie retrouvés dans le désert et des légendes communes à toute l'humanité, comme celle du déluge. Et en parlant de déluge, notre leçon de piano va se faire autour du sec et du mouillé. Alors, attachons bien nos pagnes et faisons sonner les sistres.
France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.
La sublime Niloufer Yania qui nous chantait Keep on Calling. Près du village de Beni Hassan, en Moyenne-Égypte, sur la rive est du Nil, la tombe d'un fonctionnaire égyptien, Khnoumhotep II, ayant vécu 20 siècles avant notre ère, est décorée de peintures montrant une caravane de bédouins dont l'aspect physique tranche avec les personnages égyptiens qui l'entourent. Les visiteurs sont habillés de tuniques en toile recouvrant tout leur corps, tuniques de couleur ocre avec des rayures longitudinales. Alors que les Égyptiens sont dans leur tenue traditionnelle, c'est-à-dire torse nu et pagne blanc. De plus, les Bédouins sont équipés d'armes qui viennent d'ailleurs, des arcs composites, des boucliers, des lances. L'inscription hiéroglyphique les désigne par le mot Ahamou, un terme égyptien qui définit les peuples venant de Mésopotamie. Elle précise que ce groupe de 37 nomades se rend auprès du fils de Khnoumhotep pour lui porter du phare pour les yeux. Le nom de leur chef est Eka Kassé Abish et il peut se traduire par « prince du pays des montagnes de Abish ». Ces Bédouins ont-ils un rapport avec les patriarches bibliques ? D'après la Bible, le premier Hébreu ayant foulé le sol égyptien fut Abraham en 1800 avant notre ère. Il venait de Ur, une des premières cités-états de Mésopotamie. Il était âgé de 75 ans et marié à Sarah, qui était plus jeune et très belle. Il va en Égypte car la famine sévit à Canaan où il séjourne. L'Égypte est souvent présentée dans la Bible comme un pays d'abondance. Et là, un des épisodes les plus incongrus. Sarah est si belle qu'Abraham pense que les Égyptiens vont le tuer pour s'emparer de sa femme. Alors pour se protéger, il la fait passer pour sa sœur et elle se retrouve dans le harem de Pharaon après qu'Abraham ait été récompensé. Dieu frappe Pharaon de paralysie au moment où il s'approche de Sarah. Effrayé, il la supplie de l'aider. Au bout du troisième appel, elle le délivre et lui apprend la vérité. Courroucé, Pharaon convoque Abraham et l'engueule. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta sœur ? Reprends-la avec toi et va-t'en. » Et voilà Abraham chassé d'Égypte avec son butin. Donc, le patriarche, le père des nations, est clairement menteur et un peu proxénète sur les bords. Cet épisode qui a fait couler beaucoup d'encre chez les pères de l'Église confirmerait la parole de l'anthropologue Françoise Héritier. La femme devient la propriété exclusive des hommes ainsi qu'une valeur d'échange à partir du moment où ceux-ci se rendent compte que c'est par elle qu'ils peuvent avoir des fils. Ce coitus interruptus de Pharaon avec Sarah marquerait la volonté des rédacteurs de la Bible de bien signifie que le peuple élu ne descend pas des Égyptiens, mais bien d'Abraham.
Dans le roman photo de la Bible, Sarah, Abraham et Pharaon tentent de régler leurs comptes.
Sarah, femme d'Abraham, dans les bras de Pharaon, roi d'Égypte, maman.
Chérie, tu n'es pas celle que je croyais que tu étais ?
Non, Pharaon, je m'appelle Sarah, mais je suis déjà prise.
Et moi, je suis Abraham, son mari, pas son frère, et je suis terriblement jaloux.
Il est écrit que Pharaon, le roi d'Égypte, prit Sarah, la femme d'Abraham.
Oh, Sarah, si j'avais su. Oh, Sarah, j'aurais pas dû.
Maman, ça fait mal.
On peut le commander sur Amazon, le roman photo de la Bible, et la chanson aussi.
Après cette première incursion d'Abraham, c'est son arrière-petit-fils, Joseph, fils de Jacob, rebaptisé Israël après une baston avec Dieu dont il sortit victorieux, qui va installer pour longtemps son peuple en Égypte.
Quand on parle de l'histoire de l'homme, il y a des personnages qui reviennent. Adam, Ève, Moïse, Joseph.
Joseph, qui serait presque l'ancêtre de Sigmund Freud.
Alors, professeur André, des fois il se répète et il a l'impression de retomber sur une route qu'il avait déjà empruntée.
Et c'est ainsi que Joseph va prendre un pouvoir considérable en Égypte.
Mais t'inquiète pas, André. En fait, c'est tout à fait normal, car tout est lié dans ce bas monde. Toi et moi et la terre.
Les singes et la reine d'Angleterre.
Castles in the sand.
L'Égypte et les Hébreux dans la Bible, c'est le couple infernal attraction-répulsion. Elle attire Abraham, l'Égypte, parce qu'il fuit la disette de Canaan. Et plus tard, pour la même raison, Jacob, rebaptisé Israël, y envoie ses fils pour y chercher du blé. Mais elle réduit en esclavage le peuple hébreu. Le problème, c'est que nulle part en Égypte n'est mentionné le nom des Hébreux. Sur aucune stèle, dans aucun papyrus. Archéologues, égyptologues, historiens s'avancent désormais à penser que les Hébreux seraient en fait les Hyksos. En égyptien, Hyksos se dit Eka Kazewet et signifie chef des pays étrangers. C'est un peuple venu de Mésopotamie, donc de langue sémite, et qui aurait conquis le nord de l'Égypte, s'y installant, adoptant les coutumes égyptiennes et allant jusqu'à installer une dynastie de pharaons, Hyksos, entre 1674 et 1548 sur le trône d'Égypte.
Nous sommes la branche et la racine du temple.
Nous montons dans la mobilette cosmique et naviguons sur les racines du temps.
Remontons le cours des siècles. 5000 ans avant le Christ, la Mésopotamie, où fleurissent des villes importantes, Jarno en Irak, Jéricho en Palestine, leur culture est évoluée et les alliages de métaux y sont déjà pratiqués.
Une fois n'est pas coutume, André ne convoque pas son maître Gilles Deleuze pour étayer ses propos, mais il convoque un autre de ses maîtres, Maestro, le sage du dessin animé « Il était une fois l'homme ».
Au long du Nil, siècles et dynasties vont se succéder. Il y avait eu au cours des siècles l'invasion des Hyksos, les combats avec les Hittites, d'autres mésaventures encore.
Le voyage est sans fond. Il faut arpenter le désert et observer ses strates.
Il faut remonter vers l'homme le plus loin possible. Et quand on voit à l'heure actuelle l'émotion qui prend les gens quand on leur montre un bout d'os misérable en disant « Voyez, ça c'est votre grand-mère il y a 3 millions d'années », on voit que le monde moderne est capable d'être fasciné par le plus lointain possible. Surtout ces proches orientaux qui mettent en place des sociétés qui débouchent après sur la Bible et qui débouchent après sur le Coran.
Nous sommes le miroir du futur. Nous sommes la mémoire et le rêve.
Oui, nous sommes la mémoire et le rêve.
Danse avec nous. Nous sommes la branche et la racine du temps. La racine du temps.
Au récit biblique, seule source historique durant 18 siècles, vient désormais s'ajouter depuis le 19e siècle un récit plus scientifique basé sur les découvertes archéologiques. Si on ajoute au récit légendaire le décryptage psychologique proposé par Freud, on se retrouve avec trois sources. Un récit légendaire, une explication de texte symbolique ou archétypal et enfin une reconstitution historique à partir des fouilles archéologiques. Examinons à la lumière de ces trois outils le récit du déluge par exemple. Dans la Bible, les premières pages sont terribles. Chaos and drama, comme le souhaiterait un bon producteur hollywoodien. Dieu à peine a-t-il créé l'homme que celui-ci n'arrête pas de déconner. Il mange le fruit interdit, se fait expulser du paradis. Ses premiers enfants se tuent. Caïn, le sédentaire, Oxy, Abel, le nomade. Notons au passage que déjà les migrants sont à la peine. Et voilà maintenant que c'est toute l'humanité qui part en sucette. À tel point que Dieu se dit qu'il a merdé avec le fleuron de sa création. Autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais dans ce lot de fruits pourris, il y a quand même un brave gars nommé Noé qui ne mérite pas. Et voilà Noé missionné pour sauver un couple d'animaux de chaque race. Et pour ce qui est de l'humanité, ses enfants seront chargés de repeupler la terre. S'en suivent 40 jours de déluge. Le déluge étant récurrent dans beaucoup de mythes fondateurs de civilisations, tant la réalité du phénomène avait de quoi traumatiser les hommes. En 2000 avant Jésus-Christ, en Chine, dans le bassin du fleuve Jaune, un immense déluge a dévasté un territoire de 2000 km². Les Chinois étaient en train de passer doucement d'une société néolithique à l'âge des métaux, quand la lutte contre l'inondation va les booster et va être le pilier de la civilisation chinoise et de son premier empereur, Yu le Grand, qui sera divinisé comme le dieu gouverneur des eaux. En 1600 avant Jésus-Christ, en Méditerranée, c'est tout le contraire. L'éruption du supervolcan sur l'île de Santorin met fin à la brillante civilisation minoenne et provoque des tsunamis dans toute la Méditerranée jusqu'au delta du Nil. Et justement, la civilisation minoenne ou crétoise entretenait des relations de commerce et d'échange avec l'Égypte, puisqu'on a retrouvé de nombreux objets égyptiens dans les palais de Crète. Smoke on the Water, la version tropicale de Señor Coconut.
André Manoukian, les routes de la musique sur France Inter.
de l'inondation géante du fleuve Jaune en Chine en 2000 avant Jésus-Christ au tsunami provoqué par le supervolcan de Santorin en Grèce en 1600 avant Jésus-Christ, dont certains pensent qu'il serait à l'origine de la légende du continent perdu, l'Atlantide, en passant par les crues du Nil, le résultat psychologique des déluges est souvent le même. Les hommes traumatisés par ce désastre culpabilisent, se jugent responsables des catastrophes et engendrent de nouvelles civilisations.
Bulletin de météo marine.
Allez, hop, le déluge. Comme ça, grand nettoyage.
Aujourd'hui, une pluie s'abat sur la totalité de la planète Terre.
Quand on ne peut pas prouver, on explique. Quand on ne peut pas expliquer, on raconte. C'est ce que je vais faire.
La bouée météorologique se fait emporter et ne sait plus à quelle terre se tenir, ni à quelle légende se vouer.
Pendant 6 jours et 7 nuits, les pluies, les ouragans saccagèrent la terre. Pauvre de nous. Vous préférez une autre version? La version chinoise, scandinave, latine, sumérienne, babylonienne? Celle de Gilgamesh?
La convergence des cyclones divins entraîne un vent mollissant 5 à 6 par Gilgamesh et Babylone.
Et Noé ?
Bah attendez, j'y viens. On avait toujours pensé, en effet, que la Bible était inspirée comme dictée mot à mot par Dieu à ses auteurs. Et on croyait que le récit du déluge venait tout droit de la Bible. Seulement le 3 décembre 1872... un assistant du British Museum, un certain George Smith, annonce la découverte d'une version chaldéenne du déluge, beaucoup plus ancienne que la Bible. S'il y a une version plus ancienne que celle de la Bible a copié. Après tout, pourquoi pas? Mais vous imaginez le scandale en 1872?
Oh là là!
Quoi qu'il en soit, avons-nous le déluge?
Stop, non, on va pas recommencer avec le déluge.
Bon, passons.
Et oui, notre déluge à nous, celui qui conduisit Noé et son arche au sommet du mont Ararat en Arménie, est tout droit dérivé d'un mythe antérieur relaté dans l'épopée de Gilgamesh, dont l'origine sumérienne est datée à peu près à 1700 avant Jésus-Christ. Les hommes, de plus en plus nombreux dans l'épopée de Gilgamesh, faisaient un vacarme tel qu'ils perturbaient le repos des dieux. Et les dieux voulurent dépeupler la terre. Mais le dieu Ea des eaux souterraines, protecteur des humains, prévint en songe son ami Atraasis en lui enjoignant de construire une arche étanchée au bitume et d'embarquer avec lui des spécimens de chaque être vivant. Les dieux Anunnaki enflammèrent la terre tout entière et les flots couvrirent le sommet des montagnes. Pendant 6 jours et 7 nuits, bourrasques, pluies battantes, tonnerres, éclairs et ouragans brisèrent la terre comme une jarre. Le 7e jour, la mer se calma et s'immobilisa et l'arche accosta au mont Nishir. Atraasis prit une colombe et la lâcha, la colombe revint. Plus tard, une hirondelle fit de même. Enfin, il lâcha un corbeau qui ne revint pas car les eaux s'étaient retirées. Lorsqu'il constata que des êtres avaient survécu, Enlil, le patron des dieux, retrouva son calme, se rappelant que les hommes avaient été créés pour les servir. Il accorda l'immortalité à Atraasis, mais fit en sorte que les hommes troublent moins la quiétude des dieux en diminuant la durée de vie des humains, en introduisant les maladies, la stérilité. Tout ça pour une histoire de tapage nocturne. Toujours est-il que le mythe de Gilgamesh est sans doute à l'origine du déluge biblique. Et je vous fais grâce de l'explication psychanalytique où l'eau va encore être le liquide amniotique, la matrice d'une nouvelle civilisation.
I am the rain held in disdain. Potions and potions just add to my fame. Here I'm not in Spain, I fall on the plain. Truth is I'm ruthless, I can't be contained. Twins,
blow high or low high, tornadoes to spin. For mother the cloud in widow's black shroud gives birth to the earth before fields can be plowed. Up in the sky with demand to supply, I am necessity, base of the recipe. I'm the rain. My cousin the snow lays blankets below, states that her flakes are the threads to be sown. The rival the sun who ripens the plum is feared and revered, he gives sight to the gun. Up in the sky we've demand to supply, I am necessity, base of the recipe. Up in the sky we've demand to supply, I am necessity, base of the recipe. I'm the rain, I'm the rain.
Et alors André, en musique, comment fait-on le sec et le mouillé?
Bonne question Elsa. Le sec et le mouillé. Alors, on va repartir de notre accord parfait majeur, do, mi, sol, do. Et on va lui adjoindre les tensions. La première tension, c'est la septième. La seconde tension, ça va être la neuvième. La troisième tension, la onzième. Et la quatrième tension, la treizième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en jouant toutes ces notes espacées par des tierces, je fais ce qu'on appelle des extensions d'accords qui sont énormément utilisées, bien sûr, dans le jazz. Si je joue qu'avec les accords majeurs à trois sons, j'ai une musique comme ça, assez simple, qui sonne un petit peu comme des cantiques, on va dire. Or, tout le jazz va reposer sur l'utilisation des tensions, mais d'une manière naturelle. C'est-à-dire que quand on voit un accord de Do majeur, au lieu de jouer Do, Mi, Sol, Do, un jazzman a plutôt tendance à avoir envie de jouer avec les notes qui frottent un petit peu et qui font partie de cet accord avec les tensions. Mais si je répartis ces tensions sur mon accord, là j'ai tout de suite une couleur très riche harmoniquement qui va me permettre de construire autour de mes accords des enrichissements. Alors, on va essayer d'être un tout petit peu rationnel et d'être simple. Si je joue mes tensions dans le prolongement de mon accord, c'est vachement harmonieux et ça passe. Là, j'ai joué la septième, la neuvième, la onzième et la treizième d'un accord de Do septième et... Et les couleurs sont super agréables. Maintenant, je vais relier le tout par, en égrenant l'arpège. Et on va dire que je suis dans quelque chose qui est assez sensuel. Je mets un pédale d'expression. Et on va dire que c'est un peu On va dire que c'est agréable et que c'est humide, hein. Maintenant, si je suis sec, ça veut dire que je vais séparer les tensions de ma fondamentale et je vais les jouer toutes seules en jouant sur des dissonances. C'est-à-dire que là, je joue la 13e, la 7e et la 9e d'un do. Et finalement, l'accord va prendre son sens que quand je vais jouer la basse. Mais l'idée, c'est de rester un petit peu suspendu. Et tout d'un coup, cette rigidité, cette aridité, ce peu de notes exprime beaucoup, puisqu'en jouant sur toutes les tensions, je joue sur la couleur de l'accord. Et si j'enlève la fondamentale, je suis dans une certaine forme de mystère qui va me permettre beaucoup de liberté. C'est-à-dire qu'autour de ma tonalité de do, je vais pouvoir jouer en si bémol, par exemple, c'est-à-dire en une autre tonalité. Là, on rentre dans quelque chose qui est assez complexe, puisque il y a des notions de superposition d'accords qui vont intervenir. Ces superpositions d'accords, c'est finalement pour se rappeler. En gros, si je joue un si bémol sur un do, je joue toutes les tensions de l'accord de do. Et puis, c'est plus facile pour m'en rappeler. Maintenant, si je suis sec, je joue que sur les tensions. Et ça, c'était le jeu d'un certain pianiste qui s'appelait Thelonious Monk. Il appuyait là où ça fait mal. Et tout d'un coup, on a tout un résumé harmonique avec très peu de notes. Donc, quand on joue sec, on est obligé de se ramasser, on est obligé de dire l'essentiel, et c'est dire beaucoup avec peu de notes. Voilà, ça c'est le jeu de Monk, c'est-à-dire prendre la 6e, la 7e et la 9e par exemple, et jouer sur les dissonances et insister en même temps. On enlève la pédale d'expression, donc on est carrément dans quelque chose d'aride. Et je joue sans arrêt sur les secondes. C'est-à-dire les secondes, c'est deux notes qui se suivent et qui provoquent des dissonances. Mais les dissonances, c'est ce qui fait un petit peu le sel, la saveur et les épices du jazz. Voilà donc un blues joué d'une manière sèche. D'une manière plus humide. Sec. Évidemment, nous avons besoin des deux pour que la musique vive. Si je joue tout sec ou tout mouillé, ça va pas du tout. Ce qui est chouette, c'est l'alternance des deux. Après la pluie, vient le beau temps.
ينايا نورني سنجي تسانا تابار سكوز تران دغش النوان تيني ريساس تنقم يكتفو تمي ديوان ليتا سني تلاد الشكوى ينايا نورني سنجي تسانا تابار سكوز تران دغش النوان We'll be right back. leklek sikila njar kalem tenere na'i hadkam tenere sasta napam tekti fut mi diwa le tasnid le shakwa alina yan warani senjay sana ya taba cause tan machina
Inari Wen, les bluesman Touareg du désert qui nous chantait Sastanakam. Revenons à Noé. Ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, vont se partager le monde et le repeupler, selon la Bible, bien sûr. Sem et ses descendants à l'Orient, Cham et ses descendants en Afrique et Japhet en Occident. Et voilà qu'au XVIIIe siècle de notre ère, Auguste Ludwig Schlosser, un orientaliste allemand, se sert de la puissance de cette légende et, au passage, de la foi de ses contemporains pour désigner des langues dont la parenté avait été établie dès le Moyen-Âge par les savants juifs, l'hébreu, l'araméen et l'arabe. Et ces trois langues vont être qualifiées de « langues de Sem », donc de sémites, mais encore une fois, par Auguste Ludwig. Ce mot « sémite », qui qualifiait un tronc commun de langue, fut plus tard par extension attribué à des peuples appartenant à une même famille linguistique, mais ne présentant pas nécessairement d'autres parentés. Des peuples qui, dans le courant du troisième millénaire avant Jésus-Christ, émigrèrent de la péninsule arabique vers la Mésopotamie, la Syrie, la Palestine, et en 700 avant Jésus-Christ, vers la Corne de l'Afrique, et qui vont a posteriori être qualifiés de « sémites ». L'araméen, la langue de Jésus, sera la langue internationale au Proche-Orient pendant près de 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle soit supplantée par sa proche cousine, l'arabe, à la naissance de l'islam en 622. Sont donc qualifiés de sémites des peuples de l'Antiquité, les Assyriens, les Babyloniens, les Araméens, les Cananéens, les Phéniciens, et aujourd'hui, les Juifs et les Arabes subissent en quelque sorte cette appellation arbitraire d'une légende biblique reprise par un philologue allemand du XVIIIe siècle sans aucun fondement scientifique.
Des peuples sont réunis autour d'une langue et non autour d'une terre.
Dans l'Antiquité, les langues sémitiques proches de l'arabe sont le babylonien, enfin étaient, le chaldéen, l'assyrien.
Hébreu, araméen, phénicien, syriaque, nabatéen, palmyrénien, panarabique, tout ça c'est du sémitique.
Certaines de ces langues sémitiques sont âgées de plus de 4 millénaires. Avec elles, on voit apparaître les traces du passé.
Quand nous étudions une civilisation très différente de la nôtre, nous ne pouvons pas considérer à part son art, sa religion ou son langage. La langue traduit, exprime très exactement ces différences d'expérience qui caractérisent chaque civilisation.
La langue danse dans les bouches. Entendez cette langue, elle vous dit qui elle est.
Ce sont des langues qui s'écrivent de droite à gauche.
Est-ce que ça veut dire que les sémites votent à gauche?
Mais il y a une autre caractéristique, c'est que ce sont des langues consonantiques, où il y a très peu de voyelles, trois voyelles.
Est-ce que ça veut dire que les sémites vont droit au but?
Pila, Khaye, Berawa.
Quelle langue sémitique vous connaissez déjà? Vous connaissez l'arabe?
L'hébreu.
Ouais. L'hébreu, bon.
Un peu de phénicien.
Tu connais un peu, tu connais déjà du syriaque en fait.
On parle pas hébreu, on parle pas phénicien, par contre, on parle le langage de la musique. Cela fait de nous les membres d'une même et belle grande famille, non?
Ne voulant pas être en reste, voici qu'à la suite de l'appellation sémite, on qualifia les Africains de chamites ou kémites en tant que descendants de Cham, puisque selon le récit biblique, ce sont eux qui peuplèrent l'Afrique. Même si on sait aujourd'hui que l'humanité est née en Afrique, ça ne fait rien. Beaucoup d'Africains acceptent cette légende parce qu'elle porte un des noms anciens de l'Égypte, Kem, qui signifie « la terre noire ». Dance par Patti Smith.
André Manoukian, Les routes de la musique sur France Inter.
Étudions maintenant le cas de Cham, fils de Noé. L'histoire telle qu'elle est rapportée par la Bible. Au sortir de l'arche, après 40 jours de dérive sur les eaux, Noé profite de la terre pour planter de la vigne. Le soir même de sa récolte, il boit son vin, s'enivre et s'endort nu dans sa tente. Cham, le plus jeune de ses trois fils, entre et découvre son père dans sa nudité. Il s'empresse d'aller raconter ce qu'il a vu à ses deux frères aînés, Sem et Japhet. Sem et Japhet, par respect pour leur père, qu'ils n'ont pas envie de voir ainsi, entrent dans la tente à reculons et ils le protègent d'une couverture. Lorsque Noé se réveille, il apprend que son cadet est entré dans la tente et qu'il l'a vu. Alors il se met en colère et maudit, non pas Cham, mais l'un de ses fils, Canaan. Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Le texte ajoute que Canaan est également voué à être l'esclave de ses oncles Sem et Japhet. L'épisode de la malédiction de Canaan, qui ne fait aucune allusion à la couleur de peau des protagonistes, va être l'objet de nombreux commentaires liés aux traditions juives et musulmanes. S'interrogeant surtout sur la nature de la faute de Cham, les commentateurs de la tradition juive en ont tiré des interprétations variées et parfois surprenantes. Première hypothèse, Cham a tout simplement eu tort d'être indiscret, de ne pas recouvrir son père sans en parler à personne et sans se moquer de lui. Deuxième hypothèse, Cham a couché avec sa mère. Troisième, Cham a eu une relation sexuelle avec son père. Quatrième hypothèse, Cham a castré son père. Quoi qu'il en soit, Noé a maudit non pas Cham, mais Canaan, un des fils de Cham et les descendants de celui-ci. Les autres fils de Cham sont Cush, Mitzrayim et Put, qui ne sont rien moins que les noms des pays appelés plus tard l'Éthiopie, Cush, l'Égypte, Mitzrayim, et la Libye,
Put.
Tété, fils de Cham. Oui, les Portugais, dès le milieu du XVe siècle, se servent de la malédiction de Cham pour légitimer l'esclavage des Africains. En 1666, en Hollande, la légende tirée de la Bible prend une toute autre tournure. Sous l'influence d'un Français, Lapeyrère, qui a suggéré dès 1655 que les hommes ne seraient pas tous de la même origine et que certains des êtres inférieurs, des sous-humains, les pré-adamites, auraient été créés avant Adam. De nouveaux commentateurs hollandais vont tenter de fonder la séparation de l'humanité en races, dont l'une devenue noire du fait de la malédiction de Noé serait condamnée à l'esclavage sur l'autorité de la Bible. Il est plus qu'évident que cette interprétation, qui fait de la couleur sombre de la peau la tare d'une soi-disant race maudite, était en fait destinée à justifier la mise en route de la traite des esclaves africains. Malheureusement, l'utilisation de cette propagande a porté certaines personnes qui n'ont jamais lu l'épisode de la Bible relatif à la malédiction de Canaan à croire qu'il est écrit que Noé aurait condamné Canaan et ses descendants à avoir la peau noire et à être esclaves. Ces absurdités, très souvent colportées, ont tout en commun de troubler les esprits, et tel était bien le propos des soi-disant exégètes hollandais.
André, l'égyptologue historien sénégalais Chekanta Diop, il n'est pas sûr qu'il soit maudit.
L'Homo sapiens apparaît ainsi pour la première fois en Afrique, il y a 150 000 ans, dans la région du Kenya. C'est uniquement le hasard qui a fait que l'humanité a pris naissance dans cette région. L'humanité, peut-être, si les conditions de la Terre avaient changé, étaient autres, l'humanité aurait pris naissance sous le cercle boréal. Donc, il n'y a aucun mérite particulier pour les Africains, mais c'est une simple constatation que nous faisons.
Visage pâle, Sarkozy n'est pas foncièrement d'accord avec Chekanta Diop.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Eh mais, on n'est plus obligé de l'entendre, celui-là.
Ah oui, c'est vrai. Passons et reprenons.
Du fait que l'humanité a pris naissance dans une région qui voisine l'équateur, la loi de Gloger veut que tous les animaux à sang chaud, qui naissent donc dans des régions chaudes et humides, soient nécessairement pigmentés. Par conséquent, la première humanité était négroïde.
Le premier homme était noir. Et alors ? De toute façon, on est tous des peaux rouges.
Thank you.
in a little tent. Oh, and just like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long.
Cette émission était enregistrée pour les siècles des siècles par Julien Michel, produite par la grande prêtresse d'Isis, Fanny Beaulion, mise en musique par la mage Muriel Pérez, avec les résonances célestes de la voix d'Elsa Denac. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.